Et à la une aujourd'hui, on s'intéresse donc à un très grand et très vieux champignon, Axel.
Oui Mathieu, 2500 ans, c'est son âge, et 10 km², c'est l'espace qu'occupe cet armillaire à couleur de miel dans sa forêt natale du Michigan. C'est un champignon, un des plus grands et des plus vieux êtres vivants de la planète qu'on vous présente aujourd'hui.
Alors 10 km², c'est la taille d'un individu ça, Axel?
Oui, en fait c'est la surface estimée de son réseau de mycélium qui circule sous le sol de la forêt. Mmh. Et des chercheurs canadiens ont présenté la semaine dernière une étude de sa génétique et de son évolution. Et on en discute avec vous, Francis Martin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes microbiologiste pour l'INRA à Nancy, au laboratoire d'excellence Arbre. Alors, armillaire à couleur de miel, c'est un très joli nom hein, pour un géant. D'où est-ce qu'il lui vient ce nom et à quoi est-ce qu'il ressemble ce champignon?
Les armillaires sont des champignons parasites et en même temps des composeurs du bois. Ils vivent dans les forêts, associés aux arbres. Et leur couleur est celle du miel. Donc les mycologues, il y a très longtemps, leur ont donné ce joli nom, armillaire couleur de miel, mais ce sont des parasites qui font parfois des dégâts assez considérables dans les forêts.
Mais alors on en trouve un peu dans toutes les forêts de ces géants, sans le savoir?
Dans toutes les forêts des régions tempérées, en Amérique du Nord, en Europe, on trouve des armillaires. En fait, on les appelle souvent des souffiers. On trouve ces plusieurs dizaines, parfois même plusieurs centaines de fructifications de chapeaux de champignons sur les souches des vieux arbres.
Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on a affaire à un seul et même individu sur toute la même forêt?
Mais en fait, on va utiliser les mêmes techniques que celles utilisées par la police scientifique. On utilise les empreintes génétiques, le diagnostic ADN. Il suffit alors aux forestiers ou aux mycologues de parcourir la forêt, de prélever des fructifications ou de prélever, comme c'est le cas de cette étude, les filaments microscopiques qui s'agglomèrent parfois pour former ce qu'on appelle des rhizomorphes. Ça ressemble à des lacets de chaussures qui se développent entre l'écorce et le tronc. Il suffit de récolter ces échantillons, de les ramener au laboratoire, d'extraire l'ADN et d'obtenir une empreinte génétique. Si toutes les empreintes génétiques de l'ensemble des échantillons prélevés sont identiques, on considère qu'on a affaire au même individu génétique.
Mais est-ce que tous ces filaments sont reliés? C'est-à-dire, si on donne une information à un endroit, ça peut parcourir les 10 km². Est-ce que vraiment il y a des transferts dans tout l'individu?
Absolument. Alors, on n'a pas été vérifié précisément dans cet énorme armillaire de la forêt du Michigan, mais on a des informations qui viennent d'autres expérimentations, et on s'aperçoit que ces colonies souterraines de champignons, hein, qui se développent sur plusieurs mètres carrés, sur plusieurs centimètres de carré, ici plusieurs kilomètres carrés, sont interconnectées. Alors... Les filaments sont capables de faire passer des signaux ou des éléments nutritifs d'une partie de la colonie à une autre partie de la colonie en fonction de la quantité de nutriments disponibles dans le sol de la forêt.
Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à sa génétique, à ce champignon géant? Qu'est-ce qui intéressait ces chercheurs canadiens?
En fait, c'est les forestiers américains qui, en traversant cette forêt, c'est-à-dire, ils se sont aperçus que plusieurs arbres étaient malades. Ils se sont interrogés sur l'origine de cette maladie, de ce dépérissement forestier. Ils ont fait appel à des phytopathologistes, et ces phytopathologistes canadiens ont découvert ce champignon, l'armillaire couleur de miel, et d'autres armillaires d'ailleurs. Mm-hmm. Ce sont des parasites de faiblesse. Quand l'arbre est affaibli par une sécheresse ou par des attaques venant d'insectes, cet armillaire, qui normalement est un décomposeur, relativement inoffensif, peut basculer et devenir un pathogène qui détruit, en tout cas affaiblit les arbres. Donc c'est sur la demande des forestiers inquiets pour leur parcelle et leur forêt que ces phytopathologistes américains ont développé cette expérimentation qui remonte à la fin des années 80. Mmh. Et là, ils viennent de retourner sur le site de cette expérimentation initiale pour voir si cet organisme géant existait toujours et quelle taille il avait.
Justement, Francis Martin, 10 km² de surface, ça vous paraît être quelque chose de totalement hors norme ou finalement, quand on connaît bien le monde des champignons, c'est pas si étonnant que ça?
Non, c'est hors norme pour nous, Européens, parce qu'en fait, dans le cas de ces champignons qui sont associés aux arbres, évidemment, la colonie de champignons ne peut avoir que l'âge de la forêt qui l'héberge. Et des forêts qui ont plusieurs milliers d'années, en Europe, on n'en trouve quasiment plus. La plupart des forêts françaises vont avoir quelques centaines d'années. Donc on va dans les Vosges, par exemple dans le massif des Vosges ou dans le massif central, on peut trouver des très vieux champignons qui ont quelques centaines d'années. Mais personnellement, j'ai jamais rencontré de champignons ayant plus de 300 ans.
Alors quel est l'avantage pour le champignon en lui-même, l'avantage évolutif à ne pas se reproduire et à grandir comme ça en se clonant à l'infini presque?
Aujourd'hui, on ne le sait pas.
Ah
en
oui.
fait, les mycologues ou les microbiologistes qui travaillent sur les champignons constatent que ces organismes peuvent se multiplier sous forme végétative, clonale, comme cet armillaire qui se divise année après année depuis 2000-2500 ans. Et puis d'autres champignons, prenons un exemple, le laquère couleur d'améthyste qu'on rencontre beaucoup dans les sous-bois cet automne, mais lui va privilégier la reproduction sexuée. Ces individus vont faire quelques centimètres carrés et ils vont être remplacés chaque année.
D'accord.
Donc on a des champignons, il y a des espèces de champignons qui vont privilégier la reproduction sexuée. D'autres, comme l'armillaire couleur de miel, la reproduction végétative. Et très honnêtement, je dois avouer que nous ne savons pas pourquoi les champignons vont privilégier tel ou tel mode de reproduction. Ça reste un grand mystère.
Donc si cette forêt perdure très très longtemps, ce champignon restera et vieillira à l'infini alors ?
Oui, on pense que les champignons sont immortels.
D'accord.
Donc si cette forêt existe encore dans 5000 ans, les microbiologistes qui parleront la tête au carré dans 5000 ans pourront dire « Ah ben voilà, l'organisme a cette année 8000 ou 7500 ans ».
Est-ce qu'on les mange ces champignons, en tout cas les bébés de ce champignon ?
L'armillaire couleur de miel n'était pas un grand comestible.
Hein. Ah, d'accord.
J'ai eu l'occasion d'en manger avec un gigot de sanglier, ça passe, mais c'est pas un grand comestible.
Donc les champignons sont immortels. Moi j'aime bien cette phrase.
Oui,
ça nous suffit pour faire notre journée, Francis Martin.
Très bien.
Il faut absolument, oui, parce qu'on va en reparler bien sûr avec vous des champignons. Vous allez sortir un ouvrage d'ailleurs sur la question en janvier prochain. On connaît mal d'ailleurs ce monde des champignons. Hein. Ce sont des organismes pourtant extrêmement importants dans le vivant qu'on méconnaît. Hein.
Absolument, ils sont invisibles, à l'exception de cette période automnale où ils produisent leur fructification, les champignons à chapeau, bien visibles, que certains ramassent et récoltent. Mais sinon, ils sont là, ils sont présents, ils forment une forme de vie extrêmement importante. Il y a 5 millions d'espèces, ils ont un rôle aussi important que les plantes et les animaux, mais ils sont malheureusement trop souvent négligés, malgré leur importance écologique.
Merci.
Ils sont indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes forestiers.
Merci pour votre éclairage, en tout cas Francis Martin. On se retrouvera donc bientôt dans La Tête au Carré. Et Axel, dès demain pour la Une de la Science.
Allez, on fait ça, à demain.
Allez, dans le reste de l'actualité, le LSD, pardon, qui fait doucement son retour dans la recherche avant d'être classé comme drogue et associé au mouvement hippie des années 60, le diéthylamide de l'acide lysergique avait été utilisé comme médicament. Son découvreur, le chimiste Albert Hofmann, a d'ailleurs toute sa vie défendu ses vertus thérapeutiques. Après de longues années de dénigrement, le LSD pourrait donc faire son retour dans le cercle des molécules qui soignent et qui soulagent, notamment en psychiatrie ou en traitement complémentaire dans certains cas de cancer pour gérer les angoisses. Deux études sont en cours chez l'homme en Suisse et en Angleterre. Des bébés souris issus de deux mamans, c'est l'Académie chinoise des sciences qui publiait en fin de semaine dernière cette nouvelle. Pour obtenir ces souriceaux, les chercheurs ont utilisé les cellules souches embryonnaires d'une mère qui ne contiennent que la moitié des chromosomes et les ont injectées ensuite dans des cellules d'œufs d'une autre mère. La descendance des souriceaux bimaternels a pu se faire, donc ils ont grandi jusqu'à l'âge adulte, ont eu eux-mêmes des descendants. Une technique plus complexe leur a également permis d'essayer de produire à ces scientifiques des souriceaux bipaternels qui, eux, n'ont vécu que quelques jours. Et puis comment apprendre à chanter au bruant des prés ? Une équipe de chercheurs sur l'île de Kent au Canada a décidé de voir si ces oiseaux étaient capables de reproduire une mélodie diffusée dans des haut-parleurs. Ils ont donc soumis les oisillons à une nouvelle mélodie pendant les périodes clés de leur apprentissage du chant, c'est-à-dire l'été de leur naissance. Et bien résultat, les oiseaux ont non seulement retenu la chanson, mais l'ont aussi transmise à leur propre descendance.